Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Run, l'émission d'information locale de Canal B. Au menu aujourd'hui, l'info du jour, une partie du département placée en vigilance renforcée, sécheresse. Deux interviews, d'abord avec le 4 bis information jeunesse qui fait sa rentrée sur les campus, puis avec Eau et Rivière de Bretagne, déterminée après plusieurs victoires au tribunal. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, et puis deux recommandations pour le week-end. Bienvenue dans La Run. Comme chaque jour, on commence avec une info retenue pour vous. Là, il s'agit du préfet d'Ille-et-Vilaine qui appelle chacun à poursuivre ses gestes de sobriété dans sa consommation en eau. Un communiqué publié jeudi 14 septembre et qui intervient une semaine après la 8e réunion de l'année pour le comité de gestion de la ressource en eau d'Ille-et-Vilaine. Ce comité a donc organisé un moment d'analyse de la situation hydrogéologique et météorologique en compagnie de plusieurs acteurs du secteur. Le constat, c'est suivant, la pluviométrie importante durant l'été a, je cite, rattrapé la situation préoccupante de fin juin au niveau de l'indice d'humidité des sols. Pour autant, la situation de certains cours d'eau reste préoccupante en raison d'épisodes de chaleur récents, conjugués à des précipitations réduites. Ces cours d'eau, eh bien, il s'agit du Meux, du Sémenon et de la Cher, trois bassins qui passent donc en vigilance renforcée sécheresse et rejoignent ainsi le secteur des bassins côtiers. Le reste du département est lui en vigilance sécheresse simple, entre guillemets. On le dit, les ressources en eau utilisées pour la production d'eau potable sont à un niveau jugé satisfaisant, signe de conditions météo plus favorables, également d'une diminution notable de la consommation grâce à de meilleurs réseaux et aussi à de meilleurs comportements. Alors continuez, c'est le message de la préfecture dans le prolongement de la campagne nationale intitulée « Chaque geste compte », campagne dans laquelle on nous rappelle l'importance d'éviter les bains, entre autres mesures. Des petits gestes qui ne seront, je pense, pas au cœur des préoccupations du comité rennais des soulèvements de la terre, qui, sur le même thème, hein, celui de l'eau, organise une vélorution contre l'accaparement de l'eau. Rendez-vous samedi 16 septembre à 10h sur le parking du même à la Prévalais. La Prévalais, quartier au cœur de tension entre la préservation de terres naturelles et agricoles et des projets d'aménagement. Samedi, un cortège roulant, militant et festif s'élancera donc sur les routes de la Prévalais sur une boucle de 20 à 30 km. Et le message, ce sera le suivant. La ressource en eau est un bien commun, elle n'appartient à personne. Préservons et partageons-la de façon responsable. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, une première interview. Marilyn Régent, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes chargée de communication et relations publiques au 4 bis Information Jeunesse, lieu associatif d'information, de ressources et d'expression pour les 15-25 ans, qui est vraiment à deux pas de la station de métro Charles de Gaulle à Rennes. On est au moment de la rentrée, je cherchais naïvement les dates de Tam Tam, festival incontournable de la rentrée de la jeunesse rennaise. Je suis passée à côté, ça fait en fait deux rentrées scolaires qu'il n'y a plus Tam Tam. La dernière édition, c'était en hiver 2022.
Ouais, tout à fait, absolument. Oui, tout à fait, on a souhaité réinventer un peu le format de rentrée du 4 bis pour plein de raisons. Hein. C'est Tam Tam, comme vous le rappeliez, était incontournable parce que sa longévité était là aussi. Donc, il est né en 2004. C'était un festival qui s'est un peu imposé naturellement parce qu'à l'époque, on était sur du mi-octobre pour les rentrées étudiantes et il y avait pas d'offres spécifiques pour accueillir les étudiants, les primo-arrivants et les étudiants étrangers qui arrivaient sur Rennes. Donc, avec la ville de Rennes, à l'époque, voilà, Tam Tam s'est un peu naturellement imposé comme le temps fort pour accueillir tous les jeunes au moment de la rentrée. Donc, voilà, ça a été un grand succès, effectivement, chaque année. Puis, petit à petit, la rentrée s'est progressivement avancée. Hein, donc là, maintenant, force est de constater qu'on est plutôt sur du mois de septembre et que avec le temps le nombre d'étudiants a explosé hein, sur Rennes. Il faut quand même rappeler, ça a même été annoncé qu'il y avait encore 13 000 étudiants de plus cette année, donc on est à 73 000 étudiants sur le territoire, donc c'est assez énorme. Et puis chaque université a aussi déployé ses outils, ses temps forts d'intégration, etc., etc. Ce qui fait que, voilà, on se marchait un peu sur les pattes blanches. Tam Tam avait moins de force et d'impact de faire venir tous les jeunes en centre-ville, alors même que sur leur campus, ils avaient déjà réponse et puis accompagnement de leur arrivée, quoi.
On imagine aussi qu'il y a peut-être un questionnement budgétaire. C'était un gros événement qui était très visible sur l'esplanade Charles de Gaulle, avec beaucoup d'équipes déployées, et puis également ces sacs à trucs qu'on trouvait que les étudiants venaient chercher.
Eh bien, tout à fait, ouais. Non, il y avait, merci à la ville de Rennes pour cela. On avait une très très belle subvention pour organiser ce temps fort qu'on associait à ce qui s'appelait à l'époque la nuit des 4J, puisqu'un concert de bienvenue était associé à la manifestation. Donc oui, c'était un événement qui avait un budget assez conséquent. Se rappeler aussi que l'équipe du 4bis
a changé,
et puis c'est la même équipe qui organise aussi le festival quartier d'été au mois de juillet, donc on a fait la 30e édition cet été. Et en termes de calendrier, je ne vous cache pas que organiser un festival au mois de juillet et puis remettre ça début septembre, c'est très lourd pour une équipe qui aujourd'hui ne compte plus que 18 membres dans son équipe, puisque depuis la scission, voilà, avec
une scission entre le 4bis Information Jeunesse et le CRIJ, Centre Régional d'Information Jeunesse.
C'est ça. Oui, avant on était un CRIJ, donc on était 37 salariés, hein, donc effectivement c'était assez jouable d'avoir ces deux festivals, ça se goupillait plutôt pas mal. La scission, en fait, c'est les missions qui ont fait scission, c'est-à-dire la mission régionale qui est celle d'animer le réseau Information Jeunesse en Bretagne et coordonner donc les 70 points Information Jeunesse du territoire, donc a été confiée au... est resté CRIJ, et donc c'est devenu notre tête de réseau, et nous, le 4bis, on a repris toute l'activité locale sur le territoire de Rennes Métropole.
La dernière édition de Tam Tam, donc ce festival de la rentrée de la jeunesse rennaise qui aura duré presque 20 ans, c'était en fait une édition d'hiver en février 2022. Et maintenant, place à de nouveaux rendez-vous au pluriel, puisque le 4bis en formation jeunesse se déplace désormais sur les campus des écoles d'enseignement supérieur rennaise. Ça a commencé le 4 et ça se poursuit jusqu'au 26 septembre. C'est plus modeste, on peut le dire. Est-ce qu'il y a le risque que certains étudiants passent à côté de certaines informations, ou vous y trouvez plus d'avantages que d'inconvénients ?
Alors, oui, non. Donc, c'est lourd, en fait, malgré qu'on ait arrêté la dimension événementielle. En fait, on se rend compte que c'est du boulot, parce qu'on n'est pas nombreux, parce qu'il faut à la fois ouvrir le 4bis chaque après-midi, mais aussi être sur, effectivement, tous les campus. Donc, on fait notre tournée depuis le 4 septembre. Alors ça, c'est une vraie volonté aussi avec la ville, dans notre reconventionnement aussi, de travailler ce qu'on... Voilà, c'est le mot un peu à la mode, mais le fameux aller vers, c'est-à-dire que justement tous ces publics qui n'ont pas l'occasion qui n'ont pas encore découvert le 4bis en centre-ville, comment aussi on va vers les jeunes pour leur dire que ce lieu ressource existe, qu'il est pour eux, qu'il est, faut le rappeler, c'est un lieu gratuit, inconditionnel en termes d'accueil, donc sans rendez-vous toute l'année, donc le faire connaître comme vraiment... le lieu ressource généraliste où ils peuvent venir poser toutes leurs questions. Donc on a imaginé, donc plutôt que ce temps fort autour de la distribution notamment de ce sac à trucs, que maintenant les universités font aussi, hein, ils distribuent
leur tote bag
de bienvenue
estampillé aux couleurs
exactement.
De l'université.
Donc on a un stand avec les collègues, parfois associés à la ville de Rennes quand ils sont là aussi, et on va vers les étudiants. Donc pour ma part, par exemple, j'étais sur le campus de Beaulieu la semaine dernière, ça a été formidable, on a fait près de 150 entretien individuel avec des jeunes. Ils sont très intéressés, le 4bis ça leur parle, parce qu'en fait ce bâtiment en verre en centre-ville, tout le monde le situe, hein, il est nommé dans le métro, mais en fait, tant qu'on n'y est pas rentré, on ne voit pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur.
On aperçoit des escaliers.
Voilà, donc on leur explique un petit peu ce que c'est, puis c'est surtout vraiment, là, on peut les accompagner dans leur vie quotidienne, parce qu'ils arrivent, ils s'installent, quand ils arrivent à s'installer, parce qu'on a une rentrée... voilà, un petit peu inquiétante autour du logement, peut-être qu'on y reviendra, mais voilà, on leur rappelle voilà, qu'on est vraiment à leur disposition, que c'est gratuit, que c'est anonyme, sans rendez-vous, et qu'ils ne restent pas bloqués avec une question sans réponse.
Parfois, pour des étudiants dont c'est la première année hors du foyer familial, et qui peuvent aussi se retrouver dans une forme d'isolement. Voilà.
Complètement. Et puis, le 4 bis... évolue aussi, puisque le rez-de-chaussée, hein, je ne sais pas si vous êtes passé récemment, mais en tout cas est en train de se transformer. Alors, le mot est peut-être un peu fort à ce stade du projet, mais en tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est un rez-de-chaussée où il y a le café culturel citoyen, le Kawa, donc c'est un endroit où les jeunes peuvent se poser, rencontrer d'autres jeunes, venir causer avec un animateur parce qu'ils ont un projet, venir rencontrer les jeunes de la table des jeunes, donc des jeunes qui... participe à la gouvernance de l'association 4 bis. Voilà, donc c'est vraiment un endroit, le rez-de-chaussée, très convivial, libre accès, on peut se poser, venir travailler, choper le wifi. Et donc, leur dire voilà, qu'ils ont un endroit, qu'ils ne sont pas tout seuls.
Le 4 bis Information Jeunesse est donc déjà passé sur plusieurs campus, passé par l'école d'ingénieurs de l'INSA, les campus Santé, Beaulieu, Centre et Villejean, également le Centre de Mobilité Internationale et la Rennes School of Business. Yeah. Il reste deux rendez-vous la semaine prochaine, c'est ça ?
Il reste deux rendez-vous la semaine prochaine, tout à fait. Donc j'y serai moi-même donc le 21 septembre. Nous retournons sur le campus de Beaulieu. Hein, donc le premier rendez-vous était plutôt sur l'heure du déjeuner, puisqu'on était à côté du rue, de la cafette. Celui-ci va être plutôt de 16h à 20h. Donc on tente un second créneau, parce qu'on s'adapte, on essaye de s'adapter à tous les jeunes, donc sur ce 16h-20h.
Dans le cadre du festival de rentrée de l'Université de Rennes.
Tout à fait. Et du coup, le 26 septembre, nous irons à l'ENSAB de 11h à 14h30. Donc là aussi, une partie de l'équipe du 4 bis, vous pouvez nous retrouver là-bas.
Pour les étudiants en architecture, de l'ENSAB.
Tout à fait.
Le festival de rentrée Tam Tam, il était marqué par un temps fort musical. Hasard du calendrier, il se trouve qu'il y a un concert ce week-end que j'annonce en quelques mots. La scène du 4 bis accueillera le projet rap de Zoumi, un bordelais, si je ne dis pas de bêtises. Et on retrouvera aussi deux Rennais, Diem et Elioa, en première partie. Les tarifs vont de 13 à 17 euros. Une proposition de jeunes du 4 bis, puisque c'est à chaque fois le cas pour la programmation, les concerts qu'on peut voir tout au long de l'année, c'est pas vous les salariés qui vous en occupez ?
Tout à fait, nous on ne programme rien, on aime à dire que le 4 bis c'est la boîte à outils des jeunes, des 15-30 qui ont besoin voilà, de lieux d'expression. Donc c'est le cas pour la salle de spectacle, c'est le cas pour la galerie d'expo, les galeries d'expo, le Kawa dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, on peut venir au 4 bis, on a un projet artistique et les collègues à l'action culturelle vont pouvoir travailler ce projet, voir si c'est une résidence, un concert, un projet d'association individuelle ou collectif et voilà, ils réservent la salle, c'est pour eux. Et du coup, nous, on communique sur ce que les jeunes proposent à l'intérieur du 4 bis.
Là, on se retrouve mi-septembre. La rentrée, elle a eu lieu. C'était l'occasion pour les médias nationaux de parler des étudiants à ce moment de l'année, notamment de leurs difficultés d'accès au logement et de leur précarité grimpante. Ce ne sont pas des sujets nouveaux, mais je pense qu'il y a quand même un mouvement qui s'amplifie. Est-ce que les équipes du 4 bis Information Jeunesse le ressentent, ça, sur les publics accueillis, notamment, on peut le dire, à travers ce point d'écoute? On peut appeler au téléphone pour parler de ces difficultés.
Ouais, alors au-delà d'un point d'écoute, hein, c'est une vraie permanence physique, hein, spécialisée, le point accueil écoute jeune, donc qui est au premier étage du 4 bis et donc sur lequel on peut se rendre. Là encore, gratuitement, sans rendez-vous, chaque après-midi de 14h à 18h. Oui, alors c'est un vrai souci, on l'a ressenti bien évidemment, puisque depuis la sortie du guide hein, qu'on met à jour chaque année, qui est le guide Se loger dans Rennes Métropole, à destination des jeunes, qui donc est sorti au mois de juin, avec des temps forts autour du logement, depuis cette période, ça ne désemplit pas. Moi, j'ai fait partie des salariés qui ont repris le plus tôt après les les congés, là, on a réouvert le 16 août, il y avait des jeunes et des parents, il y avait du monde à attendre la réouverture du 4 bis avec impatience et tous les jours depuis ce jour-là, les questions de logement ne s'arrêtent pas. Il y a un petit vent de panique, d'inquiétude, beaucoup de jeunes qui pouvaient s'installer sur Rennes ou qui aimeraient s'installer sur Rennes venant de Brest ou d'ailleurs en Bretagne se font le trajet tous les jours depuis chez les parents parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont dû rester chez papa, maman, d'autres n'ont pas ce privilège-là non plus et se retrouvent on a des étudiants qu'on a croisés la semaine dernière qui dorment dans leur voiture. Non, il y a des vrais soucis. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter vraiment à passer la porte du 4 bis, venir voir les collègues. La permanence spécialisée est là pour ça. Alors, on n'aura pas de recette miracle, hein, mais en tout cas, il existe peut-être des alternatives. Hein, des fois, on ne connaît pas des dispositifs comme la colocation solidaire.
Déjà, même la colocation, quand au départ, on a un projet plutôt d'emménager seul dans un studio, c'est un peu le rêve.
Bah oui, tous. Place Sainte-Anne. Non, mais en tout cas, oui, voilà, idéalement, l'idée, c'est quand même d'élargir en tout cas son champ de vision. Alors souvent, on voit derrière que c'est les parents qui sont pas non plus, qui sont assez réticents sur les colocs. Mais la colocation solidaire, c'est aussi, voilà, il y a des personnes âgées à la retraite qui mettent à disposition des chambres en échange de petits services, de courses, de présence. Voilà, on a vu, hein, là, on a été contactés par des Rennais, des Rennaises qui ont mesurer la galère du logement des jeunes et qui, d'eux-mêmes, spontanément, nous font savoir qu'il y a une chambre disponible. Enfin, voilà. En tout cas, le mot d'ordre, c'est passer nous voir. On n'aura pas de solution miracle, mais en tout cas, il y a quelqu'un pour vous écouter et il y a quelqu'un pour accompagner, en tout cas, votre recherche.
On peut renvoyer les jeunes auditeurs qui sont peut-être en galère vers le guide Se loger dans Rennes Métropole, édition 2023-2024, qu'on peut retrouver en ligne sur le site internet le4bis-ij.com. Le 4 bis information jeunesse pêle-mêle, ce sont à la fois des permanences spécialisées, notamment sur l'accès aux droits, au logement, des outils pour concrétiser ces projets, par exemple artistiques, c'est aussi un lieu de rencontre de la jeunesse, on l'a évoqué, des événements qui vont commencer à arriver, le rythme va être un peu différent, il n'y a plus tam-tam, vous essayez d'échelonner et de proposer les bons événements au bon moment selon les étapes de l'année.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que nous, au 4 bis, on essaye, autant que faire se peut, d'être toujours en phase avec les besoins du moment, les besoins des jeunes, les attentes des professionnels, etc. Donc, on essaye de s'adapter. Donc, Tam Tam, effectivement, c'était une concentration à la rentrée de toutes les thématiques qui peuvent croiser la vie d'un jeune, de la culture à la vie quotidienne, en passant par la mobilité internationale ou autre, etc. etc. Donc c'est vrai que ça, c'était hyper vivant, ça avait un côté hyper sympa, mais pour autant, on s'est aussi rendu compte que certaines thématiques, au mois de septembre, ben, la temporalité, elle n'est pas bonne. C'est pas au mois de septembre qu'on va s'inquiéter de son job d'été prochain.
Ou s'intéresser à un projet de mobilité à l'international.
Voilà, ou s'intéresser à où est-ce que je vais partir sur mes vacances prochaines ou les vacances d'été ou carrément partir faire ses études à l'étranger. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on avait toute l'année plein de demandes et qu'il y avait des temps forts déjà qui s'imposaient à nous puisqu'on s'est dit tiens, c'est vrai que là, hop, février-mars, on voit tout le monde arriver pour les jobs d'été. Au moment des vacances de printemps, notamment sur par exemple le dispositif Bourse Frige, on a des jeunes qui viennent déposer des projets de mobilité internationale.
Voilà. C'est le Frige, c'est la possibilité d'obtenir une bourse pour plein de projets différents. C'est avec la ville de Rennes,
voilà, Fonds Rennais d'initiative. Voilà, c'est le Fonds Rennais d'initiative jeune qu'on anime depuis 30 ans aussi, et qui permet, donc il y a 3 sessions par an, et qui permet aux jeunes rennais de bénéficier d'un coup de pouce financier pour monter un projet. Donc il y a novembre, mars et juin, 3 sessions, donc c'est pour ça qu'on fait à la place d'un gros tam-tam de rentrée, plein de forums, donc un forum initiatif par exemple qui se tiendra le 17 avril 2024, vraiment autour de ces questions-là pour ne causer que initiative et projet jeune.
Tout le programme est à retrouver en ligne où les auditeurs peuvent aussi retrouver une base de données loisirs de A à Z, puisque là on se retrouve au moment de la rentrée au mois de septembre et le gros temps fort à venir, vous en êtes assez fiers, vous allez recevoir
de nombreuses universités québécoises au mois d'octobre.
Ouais, ça va être chouette. Bah justement, c'est la rentrée et c'est le grand retour des universités du Québec à Rennes, puisqu'ils ont déjà fait deux grandes tournées, mais qui remontent maintenant en 2011 et 2013, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et on a la chance de les accueillir de nouveau au 4 bis. Donc ce sera notre premier temps fort dans le cadre des mercredis du 4 bis. Donc ce sera le mercredi 11 octobre de 11h à 19h au 4 bis. C'est 16 grandes universités québécoises donc, qui viennent à la rencontre des jeunes Rennais pour parler voilà, des universités là-bas, des programmes, des cursus, mais aussi voilà, comment choisir son université, où se loger là-bas. Enfin, vraiment, c'est du grand direct parce que ce n'est pas évident de réfléchir à ses études à l'étranger, à distance, mais là, voilà, on ne peut pas faire plus en direct avec les responsables d'université qui seront présents, donc ça va être super chouette.
Hors Europe, ça doit être un peu la destination, en tout cas qui, dans sa communication, cherche le plus à attirer des étudiants français, question de langue notamment, mais il y a quand même des partenariats particuliers entre Rennes, la France et puis le Québec.
Bah oui, déjà, effectivement, la francophonie fait que c'est assez simple de s'intégrer là-bas. Puis il y a une vraie... en discutant avec la personne en charge de l'organisation hier, elle nous expliquait qu'en tout cas, chez les Québécois, c'est assez naturel d'aller vers, justement, ils le font depuis très longtemps, ils ont le sens du rapport humain. Quand 16 universités, enfin ils sont 18 au total, arrivent à être dans cette telle solidarité pour tout faire ensemble, tout penser ensemble et aller chercher les jeunes ensemble au-delà des frontières. Voilà, c'est aussi, je pense, qu'ils ont une philosophie de vie qui leur est propre. Voilà, découvrir les universités québécoises sans bouger de Rennes, c'est un chouette luxe qu'on peut s'offrir donc le 11 octobre au 4 bis. Hein, vraiment rappeler que c'est gratuit. Par contre, il y a tout un programme de conférences. Donc, dont une qui s'intitule « Vivre et étudier au Québec », ce même jour de 12h à 14h, et à 15h autour de « Études et recherches des cycles supérieurs ». Et là, on vous invite quand même à vous inscrire et découvrir le programme donc sur www.destinationuniversité.ca. Donc voilà, donc tout ça aussi à retrouver sur notre site internet pour retrouver tout le programme de la journée de ce grand retour des universités, donc destination Québec.
Je vous représente, Marine Régent, vous êtes chargée de communication et de relations publiques au 4 bis Information Jeunesse, ce lieu associatif d'information, de ressources et d'expression pour les 15-25 ans qui fait donc sa rentrée. Et on peut vous retrouver, vous l'avez dit, en ligne, mais également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Merci.
Peace. Need a peace. Mind at ease. so I sleep. Bring me dreams, bring me dreams. Ah shit, here we go again. Wind sounds got me wondering, cause the skies is howling and thundering. Force fires paint the world alizarin. Take a dive, as the water rise. Fake like we doing fine, kids will probably be alright. Our lives is bad times, but we make it good times. Better than those other times, imagine 1649. Up late, think how we die. Slip the light for a good sign, cause I'm at the sublime. Looking at the sky, see myself in the nighttime. Stars on my way, black guy my way. Long drives on the 4-5. Blurred lines put me in my mind. Bad lies. Let me be, leave me be. Need me peace, need peace. Mind at ease, so I sleep. Bring me dreams, bring me.
Voyager sur Canal B, interprété par Slosson Malon 1, une nouveauté musicale sélectionnée par Yann, notre programmateur ici à la radio. C'est un single qui est sorti le 17 août chez Warp et qui fera partie d'un album prévu pour début octobre. Et derrière ce projet, on retrouve le musicien et artiste multidimensionnel Jasper Marsalis, un Américain. L'arène, l'émission d'information locale de Canal B, se poursuit avec la seconde interview du jour. Pauline Pénaubert et Michel Rioux, bonjour.
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 Je vous présente Pauline, vous êtes animatrice de la vie associative chez Eaux et Rivières de Bretagne sur le territoire des Marches de Bretagne et puis chargée de mission politique de l'eau, ça nous intéresse. Michel, vous êtes chargée de mission éducation à l'environnement dans le département de l'Ille-et-Vilaine, toujours pour cette association Eaux et Rivières de Bretagne. On redit le nombre de personnes dans les équipes d'Eaux et Rivières de Bretagne, dont le siège est dans les Côtes d'Armor, mais qui agit bien à l'ensemble de la région, il y a des salariés, des bénévoles.
Alors on a 25 salariés aujourd'hui, on a même plus de 1600 adhérents et on a une centaine d'associations membres à travers toute la Bretagne et même la France pour certaines associations.
Les missions de votre structure, elles sont multiples, informer, sensibiliser à la protection de l'eau et de l'environnement, participer aussi lors de mobilisations ou de consultations politiques, agir enfin, notamment devant les tribunaux et vos actualités, elles sont denses. On va commencer avec un volet un peu judiciaire, là l'été il se termine et vous avez remporté plusieurs victoires devant les tribunaux. D'abord, ça a commencé face à l'Agence régionale de santé il y a quelques mois. On peut en redire un mot ?
Oui, le 22 juin, on a fait reconnaître le fait que l'Agence de la santé avait tripatouillé les données sur la qualité des eaux baignades, notamment en mettant en place des fermetures préventives de plages. Ces données-là étaient sorties des bilans de la qualité des plages à la fin de l'année et on pense que ça améliorerait les données finales pour 10% des plages. À l'époque.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que y avait notamment les chiffres au moment d'épisodes pluvieux qui forcément peuvent amener des pollutions en traînant des produits vers les plages. Ces données-là d'épisodes pluvieux étaient enlevées des calculs.
C'est ça. Et ça permettait de ne pas voir les problèmes de très nombreuses plages. On se trouvait même avec des plages qui étaient fermées très régulièrement et qui étaient considérées comme en excellente qualité.
L'Agence régionale de santé a donc été contrainte de revoir ses calculs dans une période de 2 mois et d'intégrer ces chiffres-là pour avoir une vision un peu plus en temps réel et puis des actions pour fermer certaines plages en cas de besoin. Est-ce que ça a eu des conséquences directes sur la baignade durant l'été ? J'ai le souvenir très personnel d'une journée dans le golfe du Morbihan où le drapeau violet était sorti avec une qualité de l'eau insuffisante en lien avec de fortes pluies. Est-ce qu'avant cette décision de justice, cette plage elle aurait pu rester ouverte ?
Alors non, au contraire, elle aurait été fermée, mais on aurait pourtant eu marqué à la fin de l'année que cette plage était en bonne qualité. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que la plage sera toujours fermée, mais ça peut abaisser sa qualité. Et donc, si jamais on abaisse vraiment trop, on est obligé de fermer définitivement la plage. Ça veut dire qu'à un moment, il faut commencer à rechercher les origines des pollutions, qu'elles soient agricoles ou de l'assainissement, qu'il s'agisse d'un assainissement collectif ou individuel.
On reste sur la plage avec un mot sur les algues vertes. L'été a été marqué par la sortie au cinéma d'un film qui a été consacré, dont on a parlé dans l'émission d'information locale. Toujours sur sujet des algues vertes, Eaux et Rivières de Bretagne a là contraint l'État à engager rapidement des mesures plus importantes pour lutter contre les marées vertes. Ça s'est toujours passé au tribunal administratif de Rennes, ça c'était au mois de juillet.
Ça, c'est, ouais, le fin juillet, le 18.
Vous vous êtes appuyé sur quoi pour dire que c'était pas suffisant?
Bah en fait, c'est sur les bilans de ce qui était demandé de mettre en œuvre, parce que notamment, et la Cour des comptes et de nombreux acteurs, Eaux et Rivières, en première partie, depuis très longtemps, ont dit quelles sont les solutions qui seront nécessaires d'être mises en œuvre. Et malgré cela, l'État ne les engage jamais. Parce que là, cette condamnation est venue en complément d'une même condamnation sur ce programme-là de 2021. Et finalement, ce qui avait été demandé par le juge n'avait pas été mis en œuvre. Donc c'était pour cela qu'on avait été devant le tribunal. Et c'est ça qu'a condamné aujourd'hui le juge, en demandant par contre là une mise en œuvre rapide, c'est-à-dire d'ici 4 mois.
Donc 4 mois pour que la préfecture présente un nouveau plan d'action. Ça nous amène au mois de novembre. Est-ce que vous avez soit des éléments sur ce qui va être mis en place, soit des recommandations peut-être à faire sur ce qu'il faudrait faire?
Alors des recommandations, on en a. On les a transmises notamment à l'ADREAL, qui est le service de l'État qui est chargé de cette mise en œuvre-là. Mais on sait d'ores et déjà qu'il y a des forts risques que ne soient pas écoutées ces demandes-là.
Quelles sont-elles?
Alors ça va être par exemple d'inclure les baies à vasières, comme on a beaucoup en Morbihan, dans les plans algues vertes. Ça va être de diminuer les taux de nitrate autorisés sur les plans d'épandage. Ça va être d'accompagner les transformations de l'agriculture. Soutenir enfin les agricultures bio et les agricultures agropastorales.
C'est là qu'on peut peut-être dire un mot sur les mesures agro-environnementales qui, je crois, s'inscrivent dans le cadre de la politique agricole commune, politique européenne. Vous et je crois d'autres structures sont inquiètes que des demandes d'agriculteurs soient refusées pour avoir accès à ces mesures-là parce que ça demanderait un budget trop important qui n'a pas été prévu par les autorités.
C'est ça. En fait, alors qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y a 1 milliard d'euros qui va être supplémentaire que les agriculteurs vont recevoir, il n'y aura pas un centime qui sera consacré au EMAEC, alors qu'on sait que c'est un moyen très efficace de changer les systèmes et de protéger l'environnement et d'accompagner les agriculteurs de manière financière en leur donnant un soutien financier sûr.
La dernière victoire, ou presque victoire, d'Eaux et Rivières de Bretagne, elle doit être confirmée au cours du mois de septembre et elle concerne là le plan régional de prévention et de gestion des déchets, donc mené, proposé par la région, qui finalement va a priori connaître une annulation partielle. Vous, ce que vous regrettez, c'est que ça fait 3 ans de perdu, parce qu'il a fallu du temps pour l'élaborer, vous le jugiez insuffisant. On peut peut-être dire un mot sur le juriste. Il y a un juriste chez Eaux et Rivières de Bretagne, est-ce que c'est à lui qu'on doit toutes ces victoires?
Alors on a 2 officiellement à Eaux-Rivières maintenant, Monsieur Brieux-Leroc et Monsieur Thomas Tellier. Et alors c'est à eux, mais c'est surtout à nos bénévoles. Par exemple, sur la question des eaux de baignade, c'était les bénévoles qui ont constaté ce paradoxe sur les plages sont tout le temps fermées, elles sont d'excellente qualité. Donc ils ont cherché pendant des mois, ils ont demandé les informations à l'ARS. Bah, c'est pareil pour les plans de gestion des déchets. Les adhérents, ils sont documentés sur ce que c'est ce plan. Ils ont dit, bah, c'est ça qu'il faudrait qu'on mette en œuvre. Ils ont argumenté pourquoi pendant des mois, pendant les multiples réunions de la région sur la mise en œuvre de ce projet. Et à la fin, à chaque fois, on voyait que nos demandes ne sont jamais écoutées. Donc c'est vraiment un travail de collectif de longue haleine qui fait qu'aujourd'hui on arrive à ce résultat-là.
Et alors comment est-ce que vous les vivez, ces victoires successives là, qui quand même s'enchaînent? Il y a de la fierté, je ne sais pas comment vous le percevez.
Il y a une réelle satisfaction de voir que nos arguments sont écoutés par la justice et que oui, en effet, c'est constaté, notre État, notre gouvernement, la région ne font pas les efforts nécessaires pour le changement d'environnement. Par contre, c'est insatisfaisant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les changements qui seraient nécessaires. On pourrait, on connaît les solutions à mettre en œuvre, elles sont faisables financièrement et humainement, elles me permettraient d'améliorer la condition de vie des paysans, et pourtant on se refuse de se donner cette ambition-là.
Là, on se retrouve au lendemain de l'envoi d'un communiqué de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui place une partie du département en vigilance renforcée sécheresse. Le département est de toute façon placé en vigilance sécheresse. On est sans doute nombreux à garder l'image d'un été assez pluvieux, en tout cas beaucoup plus que le précédent en 2022. Est-ce que la situation actuelle, elle est surprenante pour vous ou finalement assez attendue et on va devoir s'y habituer ?
Alors, pas du tout une surprise pour nous. Déjà, en fait, il n'a pas plu tant que ça. Il a plu beaucoup au cours de l'été, mais sur l'année, on est sur une année pluviométrique normale. Il faut rappeler qu'en février, il n'a pas plu une goutte. un moment où justement ça sert à recharger les nappes. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on n'a que 3% des cours d'eau en bon état en Ille-et-Vilaine. C'est des cours d'eau très sensibles aux étiages, aux périodes de sécheresse. Et donc en fait, très régulièrement, nos cours d'eau se retrouvent à sec en fin d'été. Et le fait qu'il fasse particulièrement chaud en cette fin d'été vient en plus aggraver ce phénomène-là. On a eu un été en effet pluvieux, mais un été chaud malgré tout. Donc en fait, on a quand même eu beaucoup d'évapotranspiration tout l'été. Et nous, on voyait bien qu'on était dans une situation relativement tendue dès le début de l'été. Et on s'attendait en effet à avoir des situations beaucoup plus graves à la fin de l'été.
Là, vous avez donc du pain sur la planche en cette rentrée. On va parler de plusieurs projets sur lesquels vous travaillez. Michel Priou, vous êtes chargé de mission éducation environnement en Ille-et-Vilaine. Ça implique quoi ? C'est quoi votre boulot ?
Alors nous sommes deux à mener ces actions avec ma collègue Mélissa qui est absente aujourd'hui. Et à mener des actions auprès des établissements scolaires sur tout le département. Donc nous intervenons auprès du primaire comme du collège, lycée et aussi grand public.
Souvent lors d'actions, d'interventions ponctuelles ou ça peut être avec des projets au long cours ?
Alors ça peut être ponctuel mais essentiellement sur des projets de plusieurs interventions. Donc nous intervenons généralement au moins 3 fois par classe au courant de l'année. Quoi.
Et pour y passer, quel message ?
Alors, il n'y a pas un contenu fixe. En fait, nous rencontrons les enseignants et nous, en fonction de leurs objectifs pédagogiques, nous mettons en place un programme d'animation. Et donc, nous abordons des thématiques forcément qui sont liées à l'eau, mais nous pouvons aborder aussi bien la thématique du bocage, la biodiversité, les zones humides, le manque d'eau, les pollutions de l'eau, les économies d'eau. Les économies d'eau, c'est, on communique sur cette thématique depuis très longtemps aujourd'hui. Nous sommes pionniers, même en Ille en Bretagne, hein, sur cette thématique. Donc les messages qu'on transmet depuis 20 ans, on les entend aujourd'hui cet été. Mais,
pas de bain, plutôt une douche, mettre des...
Oui, alors ça c'est bien connu, mais tout un tas d'autres gestes au quotidien qui sont très simples.
Vous êtes donc éducateur à l'environnement, vous intervenez en milieu scolaire et c'est aussi auprès des enseignants que vous passez certains messages pour essayer de les faire sortir de la classe. Ça c'est un dispositif qui s'appelle l'école dehors qui a été relancé il y a quelques années, vous nous en dites un peu plus.
Oui, c'est surtout après le Covid hein, que ça s'est définitivement lancé, démocratisé auprès des enseignants. C'est vrai qu'il y a une forte envie de sortir de la classe et les enfants avaient besoin aussi de sortir. Donc c'est un dispositif qui incite en effet les enseignants à sortir très régulièrement. Alors généralement on essaye de caler, ça peut être un jeudi matin par exemple, tous les jeudis matins on fera classe dehors.
Et donc, pas voilà. Seulement pour les cours de... Alors ça a sûrement changé de nom, je pense aux cours d'SVT.
pas seulement pour
ces cours-là, faut le dire.
On fait des mathématiques dehors, on fait du français dehors, en sous-bois, on va pouvoir mesurer, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Et en même temps, on va être en plein air, on va être au contact des éléments, etc. Et ça permet aussi aux enfants de sortir parce que, bon, en côtoyant des élèves et des enfants au quotidien, on s'aperçoit qu'il y a un manque quand même très très important de connaissances de la nature environnante, quoi.
Et il n'y a pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements, parce qu'on pourrait avoir l'idée reçue, la Bretagne, la pluie, on est déjà revenu plusieurs fois là-dessus. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte que, voilà, on connaît des épisodes de sécheresse de plus en plus réguliers, mais quand même, voilà, il peut pleuvoir, c'est pas un frein.
Non, ça ne doit pas être un frein. Il pleut, ben on sort, on se couvre simplement, quoi, et puis on est équipé pour cela. Quoi.
C'est quoi l'intérêt ? Pour les élèves, on le pressent un peu d'être en extérieur, d'avoir plus de connaissances sur ce qui nous entoure. Et pour les enseignants ?
On s'aperçoit que c'est un contexte différent. Les élèves sont dans un cadre complètement différent. Et puis des élèves qui ne sont pas très à l'aise en classe peuvent se révéler beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus observateurs, beaucoup plus participer davantage, etc. Donc ça permet d'observer un certain nombre de choses intéressantes.
On reste dehors pour parler d'une autre action dont vous souhaitiez parler. Le temps démarre, une programmation à venir d'événements à destination du grand public. Il y a eu plusieurs propositions. Le temps de, cette année, ce sont les mars. Ça va ressembler à quoi ?
C'est ça. Donc le temps de, c'est une opération d'envergure régionale, donc sur tous les départements bretons. Donc plusieurs événements vont être proposés au grand public, des sorties de terrain, des formations, des conférences, des ateliers, etc. Donc le programme devrait paraître très très prochainement. Et donc sur l'année 2023-2024, il sera consacré à la thématique de la mare. Donc la mare en tant qu'habitat, un habitat qui aujourd'hui disparaît de plus en plus dans nos campagnes et donc qui présente de multiples intérêts, pour, notamment pour la biodiversité, mais pas que.
Pourquoi mettre en lumière la mare ? Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'elle ?
Parce qu'elle a une histoire déjà. Autrefois, la mare, beaucoup de choses tournaient autour de la mare dans le village, pour tout un tas d'activités, pour l'agriculture, pour l'artisanat, pour la lutte contre les incendies, enfin pour énormément de choses. Et puis avec, au courant du XXe siècle, tout cela a changé avec l'apparition des lave-linges, avec l'apparition de tout un tas de
technologies.
Nouvelles technologies. Donc la mare est tombée un petit peu dans l'oubli. Donc soit elle a été oubliée et puis finalement elle a disparu par elle-même parce que la dynamique de végétation fait qu'elle disparaît. Et elle a été aussi purement et simplement bouchée et remblée dans nos campagnes. Quantité de mares comme ça qui ont disparu.
Aujourd'hui, si on a besoin de la redécouvrir, cette mare, notamment avec cette programmation, c'est avant tout parce que c'est un réservoir de biodiversité ou il y a encore d'autres vertus ?
Oui, c'est un très grand réservoir de biodiversité. Il y a une faune très très particulière qui se développe dans les mares. Et chaque mare en plus est différente. Donc si on prend notamment dans le bassin rennais, où il reste encore quelques mares, notamment dans le secteur de la Prévalais, à l'ouest de Rennes, on s'aperçoit qu'il existe des populations d'amphibiens qui sont aujourd'hui des animaux extrêmement menacés.
Dont des tritons ?
Toutes les espèces de tritons sont présentes dans ces mares-là. Et ce sont des animaux aujourd'hui qui sont vraiment très 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 menacés. Donc voilà, la vie de ces animaux, mais pas que les amphibiens, tout un cortège de petits animaux, dépend aussi de la préservation des mares.
On termine, Pauline Pénobert, avec peut-être un mot sur les mobilisations, peut-être en cours, mais surtout à venir, pour l'association Eau et Rivières de Bretagne, une asso qui a l'habitude quand même de la jouer collectif, qu'on retrouve sur plusieurs mouvements interassociatifs. Votre agenda est chargé pour les mois à venir ?
Alors oui, par exemple, ce week-end, on sera en action en soutien dans le 44, à Gamenepin-Fao, contre la réouverture d'une carrière, qui s'appelle la carrière de Tahin, qui va menacer beaucoup de sources. Donc on profite de la fête des week-ends du patrimoine pour faire découvrir ces sources-là. En octobre, on sera à la fête des possibles aussi. On va participer encore à plusieurs ciné-débats autour des algues vertes aussi dans les prochaines semaines, dans toute la région, à Plohermel par exemple, pas loin d'ici. Dans les actions qu'on va faire, on va aussi faire des chantiers rivières, notamment dans le nord du département, à côté de Fougères. On va faire 3 opérations de chantier rivière auxquelles tous les citoyens sont invités à participer. Donc toutes les informations sur notre site en page agenda. Et si vous avez envie de découvrir qu'est-ce que c'est entretenir une rivière avec vos petites mains, faites-le, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances particulières, il faut juste avoir des bottes.
L'entretien, ça peut être simplement évacuer peut-être certains troncs, certains branchages, etc., qui peuvent obstruer la circulation de l'eau, mais aussi, attention, il faut le faire de manière intelligente, accompagné de techniciens, parce que les branches qui tombent dans la rivière s'avèrent aussi très très utiles, donc justement c'est assez délicat. Et,
donc il faut le faire
là,
avec
les
vous.
Les techniciens seront là pour nous éclairer sur le sujet.
Voilà, on va remettre de la diversité en mettant des gros cailloux et des petits cailloux. Comme ça fait des lieux divers pour la faune, pour s'abriter. Donc ça va être une opération qu'on fait, comme on disait, avec des techniciens, avec une association de pêche locale qui connaissent très très bien ce secteur-là. Et qui sont, pour les connaître, ils sont super passionnants. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre les pieds dans la rivière.
Et vous me l'avez confié hors micro, vous proposez aussi des temps de formation pour les bénévoles, peut-être qui souhaiteraient vous rejoindre. Pour vous retrouver et toute cette actualité aussi, il y a un site internet, le site eau-et-rivière.org. Vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux. Et c'est le moment où je vous représente, Pauline Pénobert et Michel Rioux. Vous êtes respectivement chargés de mission politique de l'eau et chargés de mission éducation à l'environnement dans l'Ille-et-Vilaine pour cette association qui est Eau et Rivière. Rivière de Bretagne. Merci beaucoup.
Merci.
Ramu à la Virgen de la Flor de Pria par Muga sur Canal B, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est un des 10 morceaux de l'album Chant de femmes des Asturies qui est sorti en 2020. Les Asturies, région ibérique à laquelle ce groupe l'orientait, a consacré un disque et que vous pouvez écouter sur scène en vous dépêchant à 19h ce vendredi sur la scène de l'ADEC, maison du théâtre amateur à Rennes. C'est une proposition de Bretagne Culture Diversité à l'occasion d'une journée d'études sur le matrimoine. Je vous le dis dit comme ça, reportage à venir lundi à ce sujet. Vous êtes en train d'écouter L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, qui a quitté les réseaux sociaux durant l'été et qui propose depuis une newsletter hebdomadaire. Ça s'appelle Le Courrier de L'Arène. Chaque semaine, je mets un reportage, une interview et une info en lumière. Et pour vous abonner, si vous le souhaitez, rien de plus simple, il suffit de m'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Vous pouvez aussi les retrouver semaine après semaine sur notre site internet. Allez, avant de vous laisser, non pas une, mais deux recommandations pour le week-end. La première, elle est sportive. C'est peu habituel. Samedi 16 et dimanche 17 septembre, dès 10h, le club de l'US Bourbarré organise donc à Bourbarré son 5e tournoi national de foot en marchant. Une variante du football qui se veut mixte, intergénérationnelle et inclusive. Cette discipline est née en Angleterre en 2011. La règle du jeu, elle est simple, des passes, mais sans contact ni course. L'idée, c'est de proposer une discipline adaptée, notamment à un public senior, mais aussi en situation de handicap. Et en Bretagne, l'US Bourbarré s'avère être un des clubs pionniers du walking football. En tout, la région, elle compte 30 clubs. Ce week-end, le tournoi réunira une vingtaine d'équipes venues de toute la France, composées de joueurs et de joueuses de 45 à 70 ans. Une initiative à contre-courant du sport en mode Ironman. Et c'est associatif, alors on y court. Enfin non, on y marche. Deuxième conseil, direction cette fois le potager des cultures du Blône à Rennes qui organise sa 5e fête annuelle. Ça se passe dimanche 17 septembre de 14h jusqu'au début de soirée. L'association des Colverts et de nombreuses structures amies attendent le public pour des animations autour de la nature et du bien manger. Au programme, une quinzaine d'activités, balades, ateliers cuisine, activités artistiques ou encore lecture de contes pour les petits et les plus grands. Et l'après-midi sera ponctué de temps musicaux concoctés par le centre culturel voisin du Triangle qui fait sa rentrée. Pour plus d'infos, il y a, je crois, un événement sur la page Facebook des Colverts. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de L'Arène, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.